et bienvenue. C'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage de France Inter.
En direct du studio 611, une émission réalisée par Jérôme Chélius, assistée de Karen Dehaye et Chloé Gandolfo, avec à la technique aujourd'hui Alexandre Chenet et Jean-Noël Vélan.
Au sommaire cette semaine, travailleurs migrants, demandeurs d'asile et, si vous n'êtes pas d'accord, attention, ça va péter.
On n'est pas des sans-voix, nous on n'est des pas de voix. On n'est pas élus, ni éligibles, ni électeurs. C'est pour ça que je dis qu'on est des pas de voix.
Vous demandez l'asile, c'est le parcours du combattant en fait.
Cheap art.
Des bombes bon marché.
And if you could stuff enough explosives.
Parce qu'en remplissant une camionnette d'explosifs, on pouvait égaler la capacité meurtrière d'un bombardier B-29 pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Yeah, a kind of poor man's air force.
Une espèce de bombardier du pauvre.
Comment ?
T'as pas entendu comme un bruit ?
Comment ?
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux ?
Une fois qu'une grande partie de la planète est à feu et à sang, que les inégalités nord-sud se creusent encore plus et génèrent des déplacements de population importants, qu'est-ce qu'on fait ? En tout cas, déposer une demande d'asile pour un migrant échoué à Paris, au Jardin des Halles par exemple, donc après avoir été expulsé du campement de la Chapelle, de la Halle Pajol et de la caserne des pompiers de Château-Landon, c'est une nouvelle épreuve, et pas la moindre. Un vrai parcours du combattant dans une jungle de procédures et d'acronymes. Obtenir un formulaire de l'OFPRA, Office français de protection des réfugiés et apatrides, à remplir dans les 21 jours. Une APS autorisation provisoire au séjour, une place en CADA, centre d'accueil pour demandeurs d'asile, avec AMS, allocation mensuelle de subsistance, ou juste une ADA, allocation temporaire d'attente. Ça, c'est plus rude. Et en cas de refus de l'OFPRA, donc, comptez sur une petite année pour la délibération, faire un recours à la CNDA, Cour nationale du droit d'asile, et si le parcours est un sans faute, entre 10 et 20% des cas, vous évitez l'OQTF, obligation de quitter le territoire français bien connu. C'est clair ? Et ben voilà, en gros, et sans s'attarder sur les subtilités, par exemple, du règlement Dublin 2, brièvement le parcours d'un demandeur d'asile en France, le tout baignant dans une volonté politique d'accueil plutôt défaillante. Bonne chance.
Antoine Chao,
Charlotte Berry,
Guy Rondil. Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Et une voiture, et un logement, et un immeuble, et une terrasse, et du papier, et du papier, et des papiers, et des papiers, et des papiers, et des
Jardin des Halles, et c'est un chanteur qui a le masque de Zorro sur la tête.
Robert.
Ah, il y a un petit matériel qui s'est installé. Là, là on branche les MP3 sur le téléphone, sur la petite sono, et ça commence à danser là. Petit moment de détente. Chacun y va de son tube. Même si les traits sont tendus et on sent de la fatigue.
Je viens du Soudan.
Ouais, vous venez du Soudan, d'accord.
Yeah. I'm coming Libyan to Italy.
Je suis allé de Libye jusqu'en Italie, d'Italie jusqu'en France. Je suis ici depuis le 6 juin.
We live 2 days.
Nous avons vécu
outside in
deux
Paris,
jours dehors à Paris.
Days, the police catch me going
la police
to prison,
m'a arrêté.
Two days.
Deux jours,
not,
pas
not
plus.
More time. I'm not
même pas le temps de visiter Paris.
Paris.
Et je me suis retrouvé en centre de rétention.
I'm asking asile here in France.
Je demande l'asile en France.
I don't know what time to answer for me.
Je ne sais pas quand j'aurai une réponse. J'attends.
I'm 27.
J'ai 27 ans.
I have a big problem
j'ai
with,
des gros problèmes
with government.
Avec le gouvernement du Soudan.
In my life. Not safety.
J'étudiais à l'université
Sudan,
et je ne me sentais pas en sécurité.
Not
au Soudan, on a le même président depuis 26 ans. Ce n'est pas démocratique.
Et vous avez commencé votre demande d'asile ?
Yeah, I'm asking asile.
Oui, j'ai demandé l'asile au centre de rétention.
I'm asking asile. Maybe I don't know.
Je ne sais pas.
I'm waiting.
J'attends.
Maybe I'm sleeping in the
je dors dans la rue.
Every time.
Tout le temps.
Every day.
Tous les
I
jours.
Don't know.
Je ne sais pas.
That is very very bad for me.
C'est vraiment très mauvais pour moi.
Yeah.
aussi à des personnes voisines, voisines du quartier qui ont des couvertures. Merci de la rapporter. Voilà, et puis pour nous, la lutte continue, tous unis, tous solidaires.
Marcia, je suis salariée dans une association qui s'appelle Domasile. Pour demander l'asile, c'est le parcours du combattant en fait. Alors du coup, il y a une commission juridique qui a été créée par les personnes qui sont soutien des migrants de La Chapelle. Et du coup, elles accompagnent les migrants sur ces questions-là, juridiques, etc.
Et Marcia, vous êtes optimiste, vous, pour le statut que pourront obtenir les migrants alors qu'ils sont baladés depuis le campement de La Chapelle, à la Halle Pajol, au Bois d'Ormois et au Jardin des Halles aujourd'hui?
Bah, clairement, c'est presque les pires conditions pour pouvoir demander l'asile, dans le sens où on est ballotté. La seule pensée qu'on a en tête, c'est où est-ce que je vais dormir demain et est-ce que je vais être arrêté ou pas. Et donc, c'est difficile de préparer son récit à ce moment-là, parce qu'en fait, on demande des dates précises, on pose des questions de différentes manières, histoire de recouper les informations, de voir si la personne donc n'invente pas. On lui demande si c'était le 20 juin ou le 19 juin qu'elle est partie il y a 10 ans de son pays. Voilà, c'est très 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 précis. Et du coup, forcément, il faut avoir été préparé, avoir eu du temps pour se poser et repenser à toute l'histoire qui a fait qu'on a fui notre pays. Et tout ça, bah, c'est sûr que ça demande du temps et de se replonger un petit peu dans des événements très très difficiles de sa vie. Après, je ne sais pas si je suis optimiste, mais en tout cas, j'espère que la France va enfin reconnaître que les personnes qui viennent d'Érythrée et du Soudan sont des personnes qu'il faut protéger et qui viennent chercher des protections, et qu'on va arrêter d'être la honte de l'Europe en décernant une vingtaine de pourcents de statuts positifs pour les personnes qui viennent d'Érythrée, alors que dans les autres pays, on est à 70-80%. C'est des nationalités qui obtiennent la protection dans les autres pays. En France, on ne comprend pas trop pourquoi ça n'est pas. Et je pense que cette tendance-là va s'inverser, en tout cas j'espère très fortement.
Et donc là, on peut remarquer qu'il y a une grosse auto-organisation, donc des citoyens, des riverains, des militants, différentes associations qui viennent ici pour aider les migrants à s'organiser et à vivre ici, à survivre.
C'est incroyable. Moi, je ne viens pas souvent au campement, hein. Je ne suis pas une régulière loin de là, mais c'est très très impressionnant quand on vient à quel point ça fonctionne, la nourriture est donnée, les vêtements sont donnés, à quel point les gens sont solidaires, les habitants du quartier viennent s'inscrire pour faire des permanences. C'est vraiment impressionnant et ça fait du bien de voir ça.
Besoin sur place. Sous-vêtements pour hommes. Hop. Fourchette en plastique, couverture, polaire, sac de couchage, couverture de survie, gants, différentes tailles, palettes, bombes de peinture ou tubes, acrylique, bougies, sac à dos Doliprane, bassine pour la lessive et pansement pour les pieds.
Le campement de La Chapelle, c'était la partie émergée de l'iceberg. C'est pas 100, 300 ou 400, c'est bien davantage qui sont dans Paris et en France, auxquels il faudra bien répondre de façon positive. Je suis Pascal Julien, conseiller de Paris du 18e arrondissement. Il est scandaleux que depuis 3 jours, on n'ait vu ni la préfecture, ni la mairie. La préfecture en charge des questions sanitaires, elle n'est pas là. Elle est en charge des questions de papier, elle n'est pas là. Nous demandons qu'au moins elle envoie ce qu'on appelle un guichet mobile, c'est-à-dire des fonctionnaires qui viennent ici et aider les réfugiés à remplir leurs papiers.
Héloïse, je suis juriste et je donne un coup de main sur le camp de réfugiés du Jardin des Halles. Parce que pour bien se défendre, il faut bien connaître ses droits. Première démarche, déposer les dossiers à la préfecture de la Porte de Clignancourt. Deuxième démarche, étude des dossiers par l'OFPRA. Et c'est l'OFPRA qui décide si on accorde la protection subsidiaire ou le statut de réfugié. En moyenne, c'est un an et demi en fait sur un dossier. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que des récépissés soient délivrés pour qu'ils puissent circuler librement. Premier récépissé de 1 mois, puis ensuite de 3 mois, afin qu'ils puissent circuler librement sur le territoire français sans risquer la police et sans avoir la peur au ventre à chaque fois qu'ils se déplacent dans les transports en commun.
Alors il y a 90% des dossiers qui sont rejetés par l'OFPRA.
C'est pas grave, on fera appel devant la CNDA et puis ça ne nous empêchera pas de continuer à les suivre via des dossiers de régularisation par la suite. De toute façon, ces gens, s'ils ont pris tous ces risques pour venir en France, c'est aussi pour y rester. Je pense pas qu'on traverse la Libye, qu'on échappe à la torture et qu'on traverse la Méditerranée juste pour le plaisir. On échappe à la misère, on échappe à la guerre au Darfour, on échappe à un destin qui sans doute conduit à la mort.
Ah, mais j'essaye de... Je m'appelle Kamal.
Je viens du Soudan, mais du nord du Soudan, pas de la région du Darfour, nord du pays. J'ai 29 ans.
Et Kamal, pourquoi vous avez quitté le Soudan ?
Parce qu'au Soudan, j'étais un ancien soldat, je suis un ancien militaire. Mais j'ai refusé de me battre. Alors ils m'ont jeté dans une prison militaire pendant 8 mois. Et j'ai été libéré en mars 2009. Vous savez, au Soudan, c'est facile pour un membre du gouvernement. S'il veut vous tuer, il le fait. Alors ma famille m'a conseillé de m'enfuir pour rejoindre la Libye avec mes frères aînés. Pendant la guerre entre l'armée libyenne et les milices, mon frère a été tué.
Votre frère a été tué en Libye ?
Oui, en Libye, à Benghazi. Beaucoup de Soudanais, des Égyptiens et d'autres étrangers ont été tués dans cette région. Des Tchadiens aussi. Je les ai perdus.
J'ai
travaillé pendant 3 mois, j'avais assez d'argent pour payer la traversée. Mais en Libye, quand vous avez de l'argent, des types vous menacent avec des flingues. Ils vous attrapent et ils disent « donne-moi tout ton argent ou on te tue ». Et donc je leur ai donné tout ce que j'avais. J'ai donc à Tripoli jusqu'à avoir assez d'argent pour pouvoir prendre un bateau jusqu'en Italie. C'était 3 jours de traversée dans la mer. Puis après, c'est un bateau de l'armée irlandaise qui nous a secoués. Et nous sommes arrivés à Palerme le 28 mai. Et en France, je suis arrivé le 1er juin. Puis on a été arrêté par la police à la Albajol et on est resté au centre de rétention pendant 5 jours. Une fois arrivé au centre, j'ai fait une demande d'asile parce que je ne peux pas retourner dans mon pays.
Je préfère me tuer ici.
Je préfère qu'on me tue ici ou que le gouvernement me mette en prison ici jusqu'à la fin de mes jours plutôt que de me renvoyer chez moi. Donc oui, j'ai demandé l'asile. Une fois que j'aurai obtenu mes papiers, je vais travailler dur pour aider ma famille. Parce que ma famille n'a personne sur qui compter au Soudan.
La gravité de la crise nécessite sans attendre d'adapter nos moyens en France.
Bernard Cazeneuve.
S'agissant des demandeurs d'asile,
AFP,
l'effort que nous avons fait est déjà très exceptionnel.
16 juin 2015.
Depuis 2012, 4200 places supplémentaires sont d'ores et déjà prévues dans le cadre d'un appel à projet pour la fin de l'année 2015. Ce plan vise également, et c'est un objectif important, à être très efficace en matière de lutte contre l'immigration irrégulière. Je le dis avec simplicité, je le dis avec force, il va falloir une mobilisation de nos forces de l'ordre, de nos préfets, pour interpeller davantage, faire des procédures et placer ceux qui doivent l'être, parce qu'ils ont vocation à être reconduits à la frontière, en rétention.
La CIMA d'Île-de-France, l'humanité passe par l'autre. 46 boulevard des Batignolles, 75 017, Paris. L'accueil est ouvert pour les demandeurs d'asile et les réfugiés. Accueil sans rendez-vous le mardi à 9h. Bonjour.
Bonjour.
Je suis avec Cécile.
C'est moi-même.
Ah, enchantée.
Je vous ai vu arriver.
Alors, Cécile Poletti, les mesures qui ont été annoncées jeudi par Bernard Cazeneuve, vous en pensez quoi ?
La première chose qu'on peut dire, c'est que de temps perdu pour qu'enfin des propositions d'hébergement soient faites. Enfin, pour l'instant, elles n'ont pas encore été faites. On ne sait pas encore comment ce dispositif va être mis en œuvre. Mais voilà, ça fait quand même plusieurs mois que cette situation perdure, que ça montre tout à fait l'embolie du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en France. Une inquiétude quand même, une grosse inquiétude par rapport à la situation de ces personnes. Qui sont quand même plusieurs centaines là à Paris, c'est comment va être traitée leur situation. Est-ce que ces personnes-là vont réellement avoir accès à leurs droits ? Et notamment par rapport aux dernières déclarations du ministre de l'Intérieur, nous, ce qui nous inquiète le plus, c'est est-ce qu'il va y avoir un tri par rapport à ces personnes migrantes ? Puisque dans les discours officiels, on entend malgré tout optimisation des capacités des centres de rétention, procédure d'expulsion qui serait un peu en contrepartie ou qui contrebalancerait, on va dire, une politique d'ouverture de places d'hébergement. Il y a une vision assez binaire, nous trouvons, entre les demandeurs d'asile qui pourraient prétendre à une protection en France et des migrants économiques qu'il faudrait expulser le plus rapidement possible. Les situations sont souvent bien plus complexes que ça. Et on trouve ça extrêmement inapproprié de pouvoir parler à un moment d'expulsion de dispositifs d'éloignement alors que là, il s'agit de protéger des personnes qui arrivent en France. Nous sommes également inquiets pour toutes les personnes qui viennent d'Italie et que là, la France va tenter de renvoyer a priori vers l'Italie, ce qui est complètement absurde puisque l'Italie, depuis des mois, demande à ce que d'autres clés de répartition puissent être faites au niveau européen et qu'il y ait un effort de solidarité entre les différents pays européens. Est-ce que, en plus, prône également la Commission européenne. Il faut rappeler que c'est plusieurs centaines de milliers, voire des millions, qui arrivent en Turquie, qui arrivent au Liban, qui arrivent en Jordanie. Je voudrais juste rappeler un chiffre que je trouve assez éloquent. Sur l'ensemble des réfugiés dans le monde, il n'y en a que 14% qui vivent en Europe. C'est à peu près 1,4 million de personnes. Le Pakistan, à lui seul, en accueille 1,9 million. Donc il faut remettre un peu de rationalité et de réalité dans les propos qui sont tenus actuellement.
L'Assemblée générale des Nations unies a fixé au 20 juin, c'est aujourd'hui et c'est une coïncidence, la journée mondiale des réfugiés, une journée commémorative internationale en faveur des réfugiés et des demandeurs d'asile. Et le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Antonio Guterres, a déclaré à cette occasion « Aujourd'hui, certains des plus riches d'entre nous considèrent les réfugiés comme des resquilleurs, des demandeurs d'emploi ou des terroristes. C'est une voie d'action dangereuse, court-termiste, moralement répréhensible. Et, dans certains cas, en violation des obligations internationales. Voilà, c'est clair. Et d'une précarité l'autre, on part avec Charlotte Perry dans un FTM, foyer de travailleurs migrants, à Paris, où laborieusement les miettes du Nord permettent la survie du Sud.
Derrière cette porte, le foyer Barra à Montreuil. Une ancienne usine à piano qui héberge depuis 30 ans des travailleurs africains. Sans aucun contrôle sanitaire, sans aucune déclaration au fisc, un système construit autour de la solidarité, 650 personnes hébergées avec 410 lits.
On assiste à un phénomène qui rejoint des zones de véritables non-droits.
Un foyer comme 19 autres en France, en situation critique pour le député RPR Henri Cuc. Dans un rapport remis au Premier ministre, il dénonce la suroccupation des locaux, les trafics en tout genre et l'économie parallèle qui s'y développe.
Alors que nous sommes naturellement dans un pays où tout système d'activité obéit à des règles précises.
20 foyers, dont 15 en région parisienne, que le député des Yvelines préconise de démolir d'ici à 5 ans afin de les remplacer par des résidences sociales de 50 lits maximum.
On est là, mais tous les jours, ça coupe la lumière, tous les jours, le pantalon, tous les jours, il y a rien. J'ai bien compris.
À un moment donné, ça tiendra plus, hein.
Avril 1996, sous l'impulsion du Premier ministre Alain Juppé, le rapport Cuc est publié. Feu sur les foyers de travailleurs migrants qui doivent impérativement être démolis. L'offensive est lancée. Le plan quinquennal de traitement des foyers qui doit opérer leur transformation en résidence sociale lui emboîte le pas. 18 ans plus tard, ce plan quinquennal poursuit son avancée. Quelques foyers y sont déjà passés, les autres ne vont pas tarder. Et au mois de septembre, c'est au tour du foyer Lorraine, dans le 19e arrondissement de Paris. Les résidents doivent bientôt déménager et dans 2 ans, ils réintégreront le nouveau foyer résidentialisé. Sauf que personne ne les a consultés, personne ne les a informés. Que va-t-il se passer pour les suroccupants qui vivent au foyer et pour les sans-papiers? Coalia, le gestionnaire, est aux abonnés absents. Qu'ils déménagent, on verra ça après. Mais les résidents sont bien décidés à ne pas se laisser manger. Alors ils se sont mobilisés. Lundi 15 juin, à 18h, en plein conseil municipal, ils s'étaient rassemblés avec leurs banderoles, leurs pancartes, les associations de soutien, place Armand Carrel, devant la mairie du 19e à Paris. Et nous, on était avec eux. Comme un bruit qui court avec les résidents des foyers de travailleurs migrants en lutte, s'ils ne mollissent pas, nous non plus.
On nous fait passer au statut de résidence sociale, mais on s'est rendu compte que c'est des foyers prison. C'est des foyers prison. Parce que ce sont des chambres de quelques mètres carrés dans lesquelles on fait tout dedans et qu'on ne nous donne pas deux clés. C'est une seule clé. Et les gestionnaires ont le double, ou un pass qui leur permet d'ouvrir et de rentrer dans ces chambres à n'importe quel moment.
Violation de domicile.
Maintenant, je vous demande où est le respect de notre vie privée. Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas.
Ceux qui habitent dans les HLM, ils payent combien? 400-500 euros. Mais aujourd'hui, nous, dans ce studio de 14, 15, 16 mètres carrés, on nous demande de payer 600 euros parfois. On nous interdise d'héberger nos enfants, nos frères, nos parents. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Non! Nous voulons vivre comme tout le monde. Avoir le double des clés. Avoir la permission d'héberger que nous voulons. Et ne pas être poursuivi en justice pour rien du tout. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui.
Merci. Alassane Ba, qui va conclure pour le Foyer Lorraine.
Alors, camarades, merci. L'esprit a compris ce qui est en train de se trimballer maintenant. La chasse aux pauvres. Du moment que vous n'avez pas les moyens de faire respecter vos droits, on vous casse les reins. Et nous, on n'accepte pas. On a commencé le combat. Tant qu'on n'a pas un dialogue, une concertation digne de ce nom, on ne varie pas. Et la mobilisation ne fait que continuer. Mesdames et messieurs, on vous remercie du fond du cœur au nom de tous les résidents du foyer Lorraine. Merci.
Merci tous. Merci beaucoup.
On ne mollisse pas, nous on ne mollit pas non plus.
Vous êtes Alassane Ba, vous êtes délégué du foyer Lorraine.
Alassane Ba, délégué du foyer du 13 rue de Lorraine dans le 19e arrondissement. On n'est pas des sans-voix, nous on est des pas de voix. On n'est pas élu, ni éligible, ni électeur. C'est pour ça que je dis qu'on est des pas de voix. Mais on ne se laissera pas manger. Bonne soirée.
Bonsoir à vous.
À demain.
Et à demain.
Merci beaucoup, toi.
À demain.
Voilà, moi je vais complémentaire. Nous, les foyers de Lorraine, on ne bouge pas. Voilà.
Et cette problème-là, ce n'est pas Lorraine seulement.
Lorraine, c'est tous les foyers.
C'est tous les foyers.
Tous les foyers.
Et les fermer les mosquées.
Oui, voilà.
Et les fermer les salles de manger. On est dans la prison.
C'est des vraies prisons.
On n'est pas de liberté. Moi, je suis là depuis en 1999.
Vous êtes d'où?
Mauritanie.
Moi, c'est Mali. Tous l'ont fait le combat. Voilà, bonne soirée. Allez.
Au revoir, à demain.
On ne bouge pas les foyers là. On est là. Mais tout d'un coup, ça a coupé la lumière. Tout d'un coup, il n'y a pas un euro. Tout d'un coup, il n'y a rien.
Alors hier, on était devant la mairie du 19e arrondissement, à Paris, avec les résidents des foyers qui manifestaient leur colère.
On ne bouge pas, on peut
en Ile-de-France. 50 000 ouvriers originaires d'Afrique de l'Ouest vivent dans des foyers délabrés. Et en 1997, un vaste programme de réhabilitation a été lancé pour rénover les 250 foyers de la région. Un projet en apparence louable, mais très contesté par les résidents.
À un moment donné, ça ne tiendra plus. Hein.
Alors aujourd'hui, on se rend au foyer de la rue de Lorraine, toujours dans le 19e arrondissement. Un foyer qui a été construit en 1979 et qui, comme tous les autres foyers, va bientôt être détruit. Une partie des résidents a déjà déménagé, mais la majorité refuse de s'en aller. Ils s'opposent à la transformation du foyer en résidence sociale. Plus de salles communes, plus de salles de prière, plus de cuisine collective. C'est en fait le mode de vie même des résidents qui est remis en cause. Alors on va aller retrouver Alassane Ba, qui est le délégué du foyer Lorraine, dans ce foyer où il vit depuis 25 ans.
La police peut refuser de renouveler leur carte de séjour, même s'ils sont venus par l'intermédiaire de l'ONI. Ceux qui veulent, c'est une main-d'œuvre docile, renouvelable tous les 6 mois. Ils veulent nous empêcher de revendiquer, oui, de lutter. Ils veulent nous diviser, oui. Ils veulent, oui, madame, oui, monsieur, ils veulent nous diviser. Voilà ce qu'ils veulent.
Vous arrivez par là, vous ne m'avez pas vu?
Non, je viens de rentrer, là.
Non, mais j'étais là, là, juste devant.
Ah, tu fumes?
Vous voyez comment le foyer est dégueulasse?
Non, il n'est pas dégueulasse, il est bien.
Ah ouais, il est...
Ah, il est très très bien. On va bien rester ici, on va bien rester ici.
Vous aimez bien rester ici?
On va bien rester ici.
Et le foyer là, il va être détruit?
Il va détruire, il va le refaire, comme David Angers.
Et alors, on va revenir. Mais c'est ça qu'on veut.
Et vous êtes sûr de revenir ou pas?
On ne sait pas. On veut.
Ici, là, devant le foyer, donc il y a plein de frigidaires.
Non, c'est des trucs qu'on a jetés.
Ah, et les poubelles, ils ne viennent pas les ramasser?
Je ne sais pas si certains sont en état de marche, ils les envoient au pays, peut-être ils rechangent un peu les moteurs, tout ça. Ça peut servir.
Sur le devant du foyer, la vitre, elle est cassée?
Oui,
la porte d'entrée?
Ça, on a l'habitude. Ça ne change pas. On fait constater, oui, on va faire, mais ils ne le feront jamais.
Ils ne changent pas quand les vitres, elles sont cassées?
Non. Ils ne changent rien ici. Rien. Les problèmes d'électricité, les coupures, l'ascenseur qui ne fonctionne pas, des fois qu'on n'a pas d'eau chaude, on râle. C'est oui, on va faire. Ou bien un réparateur, un bricoleur, il vient, il fait son petit truc. Avant d'arriver au métro, ça tombait en panne. Pas sérieux.
Devant, il y a écrit Koalia, résidence Lorraine.
C'est tout, résidence Lorraine. Ça, c'est une résidence, ça. Vous voyez, le bâtiment. 1979, tous ces bâtiments-là sont plus vieux que le foyer. Tout ça, c'est plus vieux que le foyer. Et regarde comme c'est entretenu. Mais bon, ce n'est pas les mêmes populations aussi qui habitent là-bas, il faut le dire. C'est beaucoup de petites choses, qui se sont accumulées. Maintenant, les gens, ils disent, il y en a marre. Voilà.
Je vous suis.
Alors, c'est Tony, là.
Aujourd'hui, je ne vais pas toucher, je vais vérifier.
Là, c'est la cuisine.
Là-bas, c'est la cuisine. Ici, c'était une salle de réunion. On ne l'a plus.
Là, c'est les escaliers pour aller sur les étages.
C'est le bureau du gérant du foyer.
Bonjour.
Gaï Kamara.
Chantier, pas d'enregistrement, attention.
France Inter. Mais nous, on va faire l'enregistrement pour vous. Parce que.
Alors, vous, Alassane, vous vivez ici depuis combien de temps?
Oh là là, ça fait maintenant 24 ans. Hein.
24 ans, au foyer Lorraine?
Oui.
Là, on vient de rentrer dans le foyer. Il y a des trous partout.
Regardez ça.
Il y a des trous partout dans le toit.
Ah ben ici, c'est la partie la meilleure.
C'est l'entrée. Là, on rentre dans l'ascenseur?
Dans l'ascenseur. Quand ça tape, ça réveille le quartier. Boum. Voilà.
Il y a combien d'étages? 8.
8.
C'est la manif, ça a bien marché hier.
Il y avait du monde, hein. Tout le monde y est allé. Hein. On n'a pas de temps à perdre pour aller faire des manifs pour rien, mais si on nous pousse, il n'y a pas de solution. Il faut ça. Hein.
Il y avait du monde hier devant la mairie du 19e.
Oui. Alors, 7.
7e étage.
Oui.
Au revoir.
C'était pour aller dans l'autre bâtiment.
Ah, ils ont muré, là?
Tout. Bah, s'ils ne murent pas, il y a les squatteurs.
Et du coup, il n'y a plus de salle de prière. Les gens, ils se retrouvent à faire leur prière dans le couloir.
Ah, oui, pour faire leur prière tout seul, et puis c'est tout. Hein.
Les murs sont jaunes. C'est extrêmement, extrêmement vétuste. Sur le mur, il y a écrit 7e. Il y a une valise, des containers entreposés dans le couloir.
C'est ici que je suis. Voilà, c'est dans ces lieux qu'on nous maintient. C'est un studio entre guillemets. 400 euros.
400 euros pour
400
la chambre.
400 euros.
Pour la chambre ici.
Voilà. Ça, c'est à peu près 9 mètres carrés. Et nous, on est cantonné dans ces choses-là. On paye. Et comme on ne revendique pas, on ne dit rien. Et ils se font des business sur notre dos. Et ça, maintenant, il y en a marre. Nous ne sommes pas contre les foyers parce que c'est pas que du négatif, les foyers. Il y a des choses socio-culturelles qui se passent ici qui sont très bien. En essayant de muter les FTM, c'est-à-dire foyers de travailleurs migrants, en les transformant en résidence sociale, c'est tout ce processus-là qui va s'arrêter net. Parce que quand vous voyez comme ça, c'est du tape à l'œil, mais ce n'est pas un lieu de vie. Il n'y a pas une salle culturelle, il n'y a pas une salle de réunion, il n'y a pas un lieu de convivialité où les gens peuvent s'asseoir, s'échanger même des trucs du pays ici, parler un peu, tuer le temps. S'il y a des décès, on vient présenter les condoléances à la personne qui a eu du décès dans sa famille. Tout ça, ça ne... Avec les résidences sociales, c'est des résidences antisociales qu'on est en train de créer. Là-bas, vous rentrez comme ça, les toilettes sont là. Vous avez votre lit fixé sur le plancher, c'est fixé le lit. Et la porte des toilettes, quand vous êtes couché sur le lit, la porte des toilettes, c'est juste en face de votre nid. Et vous n'avez pas droit de recevoir personne chez vous. Vous sortez de chez vous, vous allez à votre boulot ou bien ailleurs, ils ont une clé, ils ouvrent, ils regardent. Vous avez un lit à côté, vous avez quelqu'un qui dort à côté de vous, on vous assigne au tribunal, on demande votre expulsion. Et ça, sans que la personne soit en retard de loyer ou quoi que ce soit. Ça, ça fait partie du règlement intérieur des résidences sociales. Il faut étouffer les gens au maximum, mais à un moment donné, ça ne tiendra plus. Hein.
Alors, ça va ?
Ouais, ça va. Ouais. Ici, là, dans le foyer Lorraine, il y a combien de résidents ?
Nous, ici, au départ, il y avait 183. En réalité, il y en a plus de 300. À mon avis, minimum 300. Ça, c'est des conditions de vie terribles, ça. C'est inhumain. On est des gens qu'on a isolés. On a isolés, c'est les politiques qui font ça, c'est pas nous. Nous, on n'a pas été à Sciences Po, mais on est à l'école de la vie. Hein. Moi, personnellement, qui vous parle, j'ai des copains en Allemagne, j'en ai en Angleterre, j'ai mis les pieds dans tous ces pays-là. Mais ce qu'on fait en France, ça ne se fait nulle part ailleurs.
Les foyers de travailleurs, comme ça n'existe qu'en France.
Ça n'existe pas en Angleterre ni en Allemagne. Regardez le problème de surnuméraire. C'est un faux problème, c'est politique. Les gens pensent que surnuméraire égale sans papier. Mais c'est faux. Ici, on a 26 Français qui habitent ici. Mais les Français... Disons le mot, ils sont noirs. On a des Maliens, il y a des Sénégalais, il y a des Mauritaniens. On avait même un Belge ici. Mais avec la politique des gestionnaires, au moment de se faire régulariser, l'administration va vous demander certaines pièces. Et nous, des gens qu'on habite au foyer, on n'est pas des locataires, on est des résidents.
Vous ne pouvez pas être domicilié.
On ne peut pas domicilier, même si votre fils est là, vous ne pouvez pas le domicilier. Pour qu'il s'efface ses papiers, vous ne pouvez pas. Donc, comme vous avez des contacts, vous avez quelqu'un de la famille ou des amis comme ça qui habitent dans des appartements, le mec, il est obligé de faire son adresse là-bas pour qu'il puisse obtenir ses papiers. Mais il est ici. Et quand il est régularisé, il va changer son adresse parce qu'il est là. Donc, c'est ce qu'on appelle les surnuméraires. Et maintenant, on s'étonne qu'il y a des problèmes. Nous, tant qu'il ne reloge pas les surnuméraires, tant qu'il n'y aurait pas un conseil de concertation digne de ce nom, on va rester même dans la promiscuité, mais on ne bougera pas. Hein.
Ouais ouais donc, pour nous, on a des conditions déplorables. Donc, il fallait qu'on se batte depuis très longtemps. Koalia ne respecte pas ses engagements. Il a profité de nous. Donc là, moi, je conseille à ceux qui restent et ceux qui sont en porte-maillot qu'ils se serrent les dents, qu'ils serrent les mains. Tant que les surnuméraires n'ont pas leur logement, il ne faut pas que cette partie-là bouge. C'est ce que je voulais parler. Je vous remercie. Je vous dis du coup. Il faut que les gens soient unis.
Vous vivez au foyer depuis combien de temps ?
Oh, depuis que je suis en France. Hein. Ça fait 36 ans. 36 ans.
Vous êtes arrivé quand en France ?
Le 8 février 77. J'avais 22 ans. Et aujourd'hui, j'ai 59 ans. Nous, on représente un grand barrage. Parce que si jamais que nous n'étions pas en France, depuis les années 73, qu'elle a commencé la sécheresse et tout ça, l'appauvrissement des populations rurales, c'est pas Lampedusa, hein, c'est pire. On a pu maintenir certaines cohésions, mais tout ça, il faut que quelqu'un se sacrifie.
Pour faire vivre les familles.
Les gens derrière. Qui aime vivre loin de sa famille comme ça? Loin des siens? Personne ne le veut. On s'en va pour des raisons évidentes. Et pourvu que le réchauffement climatique ne détruise pas encore ce qui est en train de s'améliorer. Là, c'est des problèmes que nous, personne ne pourra résoudre. Et il peut faire murer la France jusqu'au ciel, mais ça rentrera. Pourquoi nous, l'Afrique de l'Ouest, on ne va pas en Allemagne? Il n'y a pas un que vous voyez ici dans les villages que ses arrières ne sont pas morts ici. C'est nous qu'on a été la chair à canon ici. Moi qui vous parle, là, si c'est normal, en France, je ne devais même pas faire de démarche de papier. Je suis né en 56, le Mali était français. Voilà.
Ça va, chef ? Vous faisiez quoi ?
Moi, j'ai fait deux arrêts de cœur. Vous voyez, si la pharmacie fait en grève, nous on est partis.
Vous avez tous vos médicaments sur la table.
Voilà.
Mais avant, du coup, vous travaillez où?
Moi, j'ai travaillé chez Thompson, j'ai travaillé dans les pressings, à Neuilly, les nettoyages à sec. C'est dur, et surtout quand il fait chaud, à peu près c'est à 1000 euros.
1000 euros. Et tous les mois, vous envoyez combien,
Romain? Oh non, c'est pas fixe, parce que mes enfants, ils sont grands maintenant. Ah. Ben, c'est plus comme avant. Ben, heureusement, d'ailleurs.
Vous avez combien d'enfants?
Oh, j'en ai 6. C'est des grands maintenant.
Ils sont tous au Mali là?
Oui. Ah non, moi je voudrais jamais que mon fils mette les pieds ici. Non. Si c'est quelqu'un qui peut venir faire ses études, si, ok. Mais venir tout ce qu'on voit là, ah non, ça je ne souhaite pas à mon fils. Je préfère qu'on souffre là-bas. On essaye d'alléger un peu la souffrance que de venir ici. C'est difficile, hein? Vous voyez, la plupart du temps, les gens, ils ont leurs papiers, ils sont en règle. C'est travailler 2 heures ici, 3 heures là-bas. Mais attendez, avec ça... Heureusement, j'ai des neveux qui ont bien reçu. Lui, bientôt, il va être directeur à la CAF à Lyon.
Là, vous me montrez une photo sur le mur de votre chambre.
La fille, elle, c'est une infirmière libérale qui a fait sa propre société, qui fait travailler une quarantaine de filles. Ça, c'est notre fierté. On n'est pas que des travailleurs immigrés dans les foyers. On a des attaches ici. On a des gens qui se sont mariés ici, qui ont des enfants qui se sont mariés. Nous sommes des Iciciens. Voilà.
Tu attends pas la bouffe?
Monsieur Sirevoy.
Hein? Tu n'étais pas pressé, tu attends, on va manger.
Qu'est-ce que vous avez préparé à manger?
Des tchèpes.
Tchèpes?
Tchèpes poulet, oui. Tu attends qu'on va manger. Tu n'es pas pressé?
Non, je ne suis pas pressé.
Ben, dans 10 minutes, c'est bon.
Vous vous appelez comment?
Ousmane, assieds-toi. Je vais te donner à manger. Il n'y a pas de souci.
La police peut refuser de renouveler leur carte de séjour, même s'ils sont venus par l'intermédiaire de l'ONU. Ce qu'ils veulent, c'est une main-d'œuvre docile, renouvelable tous les 6 mois. Ils veulent nous empêcher de revendiquer, oui, de lutter. Ils veulent nous diviser, oui. Ils veulent, oui, madame, oui, monsieur, ils veulent nous diviser. Voilà ce qu'ils veulent.
Et ça, maintenant, il y en a marre. Voilà.
Alors vous avez compris, chers auditeurs, que ces travailleurs migrants constituent un véritable barrage contre l'arrivée massive de populations déshéritées. Car avec l'argent qu'ils envoient au pays, on construit des puits, des routes, des châteaux d'eau, des écoles. Bref, on améliore les conditions de vie, on développe le pays. C'est pour cela que ces travailleurs migrants se sacrifient ici. Mais tous ces capitaux qui fuient agacent les pouvoirs publics. Mieux vaudrait pour notre économie que les migrants dépensent l'argent ici. Et avec la disparition des foyers, c'est justement une partie de leur capacité d'épargne qui est absorbée par le prix des nouveaux loyers. Une fissure dans le barrage qui pourrait finir un jour par craquer. Et là, tous les murs, tous les barbelés et les polices des frontières de la Terre ne suffiront pas à empêcher les gens d'arriver. Et maintenant, tout amalgame avec les sujets précédents n'étant que pure et fortuite coïncidence, nous partons avec Guy Van Til pour une petite leçon d'histoire de la voiture piégée.
Comme un bruit qui court.
Antoine nous a parlé du parcours des combattants demandeurs d'asile venus de pays aux cieux moins propices. Charlotte nous a fait rencontrer ceux qui sont passés par là et qui refusent de voir briser menu toute possibilité de vie commune et de résistance collective. C'est pour ça qu'on a eu envie d'aller écouter Mike Davis en cette fin d'émission et fin de saison. Mike Davis, c'est un historien américain, ancien conducteur de poids lourd, devenu sociologue urbain et qui nous décrit depuis des années le pire des mondes possibles. Ce monde où nous vivons, ce stade Dubaï du capitalisme fait de bidonvilles, de passe-frontières et de surveillance toujours plus militarisée. Et c'est en Californie que nous l'avons retrouvé, près du mur de Tijuana, dans sa maison de San Diego, pour nous parler d'un livre sorti il y a quelques années déjà sur un sujet toujours aussi brûlant, les attentats à la voiture piégée, tout comme aujourd'hui encore à Sanaa au Yémen, vous l'avez entendu aux infos. Avec ou sans kamikaze, cette arme de guerre asymétrique a été aussi bien utilisée par la droite sioniste et les islamistes palestiniens, par les anarchistes américains et les suprémacistes blancs du Sud-Africain, par les tigres tamouls et par les indépendantistes corses et l'organisation de l'armée française de notre chère Algérie française. Alors, pour ne pas se perdre dans les inventaires mortifères, pour y trouver du sens, Mike Davis nous dresse la petite histoire de la voiture piégée, cet événement incompréhensible qui ponctue régulièrement nos flashs d'infos. On voit toujours les mêmes images dans les journaux télévisés, les sirènes hurlantes et les premiers secours aux blessés. Toujours cette même inquiétude, toujours cette même incompréhension, toujours les mêmes suppositions et ces conditionnels avant la revendication. Mais d'armes artisanales, de groupuscules plus ou moins bancales, la voiture piégée est maintenant devenue une arme tactique à échelle industrielle, utilisée par exemple massivement en Syrie, à Ramadi, il y a quelques semaines de ça, où les djihadistes ont eu recours à une trentaine de camions-bombes au cours de leur conquête de Ramadi. Le bombardier du pauvre. Voilà la petite histoire de la voiture piégée que va nous faire Mike Davis. Car pour comprendre un phénomène, il faut aussi en écrire l'histoire. Et comme le dit Mike Davis, ce livre qui est le premier à s'intéresser à l'histoire des techniques de la voiture piégée est sorti juste après la fin de la campagne américaine sur Bagdad. Donald Rumsfeld clamait le contrôle total et global sur le champ de bataille. Mike Davis le rappelle, cette illusion s'est effondrée sous les coups des voitures piégées et des IED. Raison de plus pour poser cette question. D'où viennent les voitures piégées et quelle est leur histoire? Et c'est comme ça que j'ai découvert l'histoire de cette charrette remplie de dynamite qu'un anarchiste italien avait déposée devant la banque JP Morgan à Wall Street en 1920. Qui était de fait le précurseur du 11
septembre 2001.
At noon on Thursday, September 16th, 1920, a horse-drawn wagon loaded with 100 pounds of dynamite pulled up along the north side of the J.P. Morgan headquarters. Moments later, the wagon exploded into the unassuming crowd.
L'histoire commence donc là. Ce sont les anarchistes qui ont ouvert l'ère de la voiture piégée. Car bomb.
Yeah. Anarchists, we have to remember that before there was Al-Qaeda.
Oui, des anarchistes, parce qu'il faut se souvenir qu'avant Al-Qaïda, c'était des anarchistes qui étaient les ennemis publics numéro un. C'était eux qui avaient réussi à tuer plusieurs présidents et 4 ou 5 têtes couronnées en Europe. Et aux États-Unis, elle incarnait la colère de tous ces émigrants qui se sentaient mis à l'écart du rêve américain. Et c'est donc l'histoire de Mario Buda, cet anarchiste italien qui, parce qu'il travaillait dans la construction, avait accès à la dynamite. Il en a rempli une charrette, remplie de dynamite, a mis une mèche et l'a garée à Wall Street, juste en face de la banque JP Morgan, qui était une incarnation même du pouvoir capitaliste à l'époque. Malheureusement pour les terroristes, JP Morgan à l'époque n'était pas là, mais en Angleterre, mais la bombe a tué énormément de gens. Toutes ces images de ces traces d'explosion, de ces débris, de la panique et de ces centaines de fenêtres explosées, c'est vraiment comme un avant-goût de ce que sera plus tard le 11 septembre. Et bien sûr, tout de suite après l'attentat, toute la presse racontait comment les forces sataniques attaquaient les États-Unis et qu'il y avait des terroristes anarchistes à chaque coin de rue. Ça a vraiment un air de déjà-vu.
11h le 30 mars à Saïgon. Devant l'ambassade des États-Unis en plein centre de la ville, des corps jonchent le sol. Quelques instants plus tôt, l'équivalent de 200 kilos de plastique dissimulé dans un véhicule abandonné devant le bâtiment avait explosé.
Attentat à la voiture piégée à Colombo, Sri Lanka. Premier bilan, au moins 100 blessés et 16 morts, dont le ministre d'État à la Défense.
Il y a moins d'une heure, une voiture piégée a explosé à Jérusalem-Ouest.
Et à Tel Aviv, c'est une voiture piégée qui a explosé.
La voiture piégée avait été volée et une vingtaine de suspects ont déjà été arrêtés.
Un attentat à la voiture piégée a eu lieu jeudi dernier à Kaboul, la capitale.
C'est la première fois qu'un attentat à la voiture piégée a lieu sur l'île de Beauté.
Une voiture piégée avec des bouteilles de gaz à Bastia.
Bah, ils sont cons parce qu'une voiture, ça explose. Hein.
De manière assez étrange, la voiture piégée a été très peu utilisée pendant la Deuxième Guerre mondiale par des partisans ou par des mouvements de résistance. Par contre, elle a été utilisée avant la création d'Israël par les mouvements sionistes, par la milice Stern et la milice Irgun, contre les Anglais et contre les Palestiniens. Ensuite, l'utilisation de la voiture piégée comme arme a été assez sporadique. Il y a eu les nationalistes corses. Ça a été utilisé par l'OAS en Algérie française. Mais la véritable révolution technologique est venue d'un groupuscule de crétins d'extrême gauche à l'université du Wisconsin en 1970, en utilisant des fertilisants et du diesel. Et ils en ont fait une bombe qu'ils ont fait exploser sur le campus de l'université du Wisconsin. L'ampleur des dégâts a dépassé tout ce qu'ils avaient pu imaginer, et ça a été vraiment un tournant, parce que cette technique a été vite reprise par différents groupes comme l'armée républicaine irlandaise, l'IRA, parce que grâce à ça, on pouvait construire une voiture piégée à partir d'engrais et de fertilisants agricoles facilement accessibles.
Hier soir, une voiture piégée a explosé devant un pub de Belfast. Il y avait près de 100 kilos d'explosifs dans la voiture piégée. C'est finalement...
qu'on pouvait vraiment faire une arme low-tech et qu'en remplissant une camionnette d'explosifs... on pouvait égaler la capacité meurtrière d'un bombardier B-29 pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une espèce de bombardier du pauvre.
The explosion took away what appears to be nearly one third of the building. The entire front is gone.
The story is in Oklahoma City. Take a look at this.
April 19th, 1995. Oklahoma City.
Et tout ça a eu deux conséquences qu'on n'imaginait pas jusqu'alors. D'abord, ça a permis à des petits groupes sans aucune crédibilité, ni même de soutien ou de base, de créer des dégâts considérables, comme l'a fait Timothy McVeigh avec l'attentat d'Oklahoma City en 1995. Mais le second effet de l'usage de plus en plus courant de la voiture piégée, c'est que ça a changé la donne sur les champs de bataille. Ça permettait à des groupes armés de se constituer l'équivalent tactique d'une armée de l'air avec des véhicules piégés. Et ça a commencé à redessiner le champ de bataille et les villes, avec la zone verte, la zone rouge. Et même si le Pentagone a dépensé des milliards de dollars en essayant de développer des moyens d'éviter les attentats à la voiture piégée, ça ne marchera jamais. Parce que pour pouvoir empêcher les voitures piégées, il faut pouvoir contrôler toutes les voitures, ce qui est absolument impossible.
Avec sa petite histoire de la voiture piégée, Mike Davis nous dresse donc la métaphore de notre monde tiraillé entre bidonville global et explosion urbaine, où les logiques de prédation broient les hommes tout autant que les paysages. C'est donc un marqueur de notre époque, où la technologie low cost vient ébranler les murs d'une société fracturée et mondialisée, où les inégalités creusent le sillon du radicalisme.
Mais la voiture piégée a aussi changé la politique internationale. Et pour ça, le tournant a été l'attentat à la voiture piégée contre la base des Marines américains à Beyrouth en 1983. Ce camion rempli d'explosifs qui a foncé vers la base de l'aéroport de Beyrouth a tué près de 250 Marines et soldats américains, ce qui en faisait le jour le plus meurtrier pour les Marines américains depuis la bataille d'Okinawa en 1945. Et le résultat de tout ça, Ronald Reagan a retiré les troupes américaines du Liban. Et d'un certain sens, les conséquences de cet attentat étaient plus importantes même que la fin de la guerre au Vietnam. Parce que l'attentat contre la base américaine de Beyrouth montrait les limites du pouvoir américain dans une mesure que personne jusqu'alors n'avait même pensé ni théorisé. Et depuis que j'ai écrit ce terrible petit livre, le nombre d'attentats à la voiture piégée n'a fait que croître de manière exponentielle. Ça passe difficilement un jour sans qu'on entende parler de 40 ou 50 morts qui sont morts dans un tel attentat.
Bonjour.
Le poste de commandement français à Beyrouth n'est plus maintenant qu'un monticule de pierre après l'explosion à 5h20 d'un camion suicide piégé, bourré d'explosifs. Un carnage.
Deux voitures piégées.
Un camion bourré d'explosifs lancé d'abord contre le poste des soldats français, puis un autre camion, pareil, lancé contre le QG américain.
Cheap bombs.
Des bombes bon marché, des armes de cette puissance qui soient aussi facilement accessibles, ça a forcément été une tentation pour des groupes qui avaient aussi des revendications légitimes et un soutien populaire. Le cas le plus intéressant, c'est l'Afrique du Sud, quand Nelson Mandela était encore à la prison de Robben's Island. Il y avait cette pression de l'aile armée de l'ANC pour des contre-attaques militaires. Et il y a eu quelques voitures piégées. Et Mandela a écrit en disant « Arrêtez net, un point c'est tout ». Il a dit que l'utilisation de voitures piégées ferait perdre énormément de soutien international, comme une faute morale. Et c'est ce qu'a aussi compris l'armée républicaine irlandaise et l'IRA quand ils ont cessé de faire des voitures piégées en Irlande. C'est là où ils ont fait cette voiture piégée dans la City de Londres, en causant plus de 2 milliards de dollars de dégâts avec une seule voiture piégée. Et ça n'a fait que forcer le gouvernement à accélérer les négociations avec le Sinn Féin.
Attentats, négociations publiques ou secrètes se poursuivront de longues années.
Il faudra attendre décembre 93 pour que les négociations sortent enfin de l'impasse. Pour la première fois, elle offre au Sinn Féin d'intégrer officiellement les pourparlers, mais à une condition, une seule, un cessez-le-feu de l'IRA.
Ça montre aussi le réel potentiel de ces attentats à la voiture piégée quand ils sont dirigés contre les centres nerveux du pouvoir économique et ses infrastructures.
Les 50 étages de la Tour Nord-Ouest, les bureaux de la Hong Kong Shanghai Bank et ceux de bon nombre d'autres sociétés comme la française Indo-Suez sont inutilisables.
Il faut montrer qu'il est toujours nécessaire de chercher les rationalités, les raisons économiques derrière les conflits. Quand on a par exemple de tels niveaux de chômage auprès de gens plutôt éduqués dans le monde arabe, où toute promesse de révolution nationale ancrée sans la religion a été systématiquement détruite par les États-Unis. Mais on sait qu'on récolte toujours ce qu'on a semé. Et même les gens qui vivent dans des résidences murées et fortifiées, ces gens qui ont fait sécession du reste du monde dans leur retraite, ce sont eux-mêmes qui créent les menaces qui les inquiète tant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on n'a même plus besoin des bombes pour faire ça. On peut causer des milliards de dollars de dégâts en simplement hackant un système ou en attaquant les réseaux dont nous dépendons tous. Par exemple, je vois, moi, avec mes élèves à qui j'enseigne, rien ne leur fait plus peur, pas les guerres nucléaires, pas la fin de la nature. Rien ne leur fait plus peur que d'être déconnectés, d'être éjectés du monde numérique, de leurs réseaux sociaux. C'est presque inimaginable aujourd'hui pour des millions de personnes d'être déconnectés.
Nous ne serons jamais à l'abri, alors autant travailler à la justice plutôt qu'à la sécurité, travailler au co-développement plutôt qu'à se barricader. D'autant que vous l'avez entendu, nous sommes vulnérables aussi dans nos libertés numériques. Et à ce propos, permettez-moi de vous signaler que demain, c'est l'anniversaire d'un certain Edward Snowden. Et comme cadeau aussi, la France pourrait peut-être lui offrir le droit d'asile. En tout cas, le livre de Mike Davis, vous pouvez le retrouver gratuitement en ligne sur le site des éditions Zone.
C'était Comme un bruit qui court. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la page Comme un bruit. Laissez-nous des messages et des commentaires, ça nous fera plaisir. Et passez l'été et profitez-en pour réécouter toutes nos émissions pendant les vacances.
Juste après les informations, vous retrouvez Colin et Mauduit pour Si l'Amérique m'était comptée. Et nous, on se retrouve non pas la semaine prochaine, mais la saison prochaine. En attendant, passez un bel été.